Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On voit souvent son visage dans les journaux, à la télé, mais son parcours est peu connu. Parti de rien, Jean-Michel Aulas, 71 ans, a constitué une fortune estimée en 2019 par le magazine Challenge à 600 millions d'euros. Et il a souvent été précurseur en développant, par exemple, la section féminine de son club. Le président de l'Olympique Lyonnais vient d'être débouté le 9 juin par le Conseil d'État. Code Source vous raconte aujourd'hui son histoire avec Yves Leroy, journaliste au service des sports du Parisien et ancien correspondant à Lyon. Yves Leroy, c'est peu connu, mais Jean-Michel Aulas a beaucoup d'amis dans le show business qu'il aime retrouver quand il est en vacances.
À Saint-Tropez, l'été pendant ses vacances, c'est le moment où il décompresse pendant quelques semaines avec ses plus proches amis lyonnais avec qui il part en vacances depuis des dizaines d'années. Et puis aussi quelques people, surtout des people lyonnais. Tony Parker, Clovis Cornillac, Benjamin Biolay, Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes. Il s'est fait construire une maison depuis quelques années. Il aime particulièrement jouer à la pétanque sur la place des Lys, où le club de boules que l'Olympique lyonnais sponsorise organise chaque année un tournoi avec des personnalités et des joueurs aguerris de pétanque.
On l'a beaucoup vu ces dernières semaines avec la crise du coronavirus, mais avant de revenir là-dessus, Yves Leroy, vous allez nous raconter son parcours. Jean-Michel Aulas naît le 22 avril 1949, à une trentaine de kilomètres de Lyon, l'Arbrelle, dans le Rhône, une commune de 6000 habitants aujourd'hui. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ?
Il grandit avec des parents enseignants. Sa maman est prof de maths, son papa est prof de lettres, mais il est aussi chef d'une des rédactions locales d'un journal qui s'appelle Lyon Matin. C'est un peu une personnalité locale, parce que d'ailleurs, à l'Arbrelle, il y a une rue au nom de son papa, Michel Aulas.
Quand il est jeune, il est vraiment passionné par le sport.
C'est un excellent joueur de handball. Une des dirigeantes du club qui l'a vu jouer à l'époque nous dira « C'était un joueur très rapide et très bon, mais un peu perso. » Ce qui peut, au final, rassembler d'autres traits de la personnalité de Jean-Michel Aulas.
Il va être marqué par un drame.
Il perd sa maman très jeune et ça le coupera un petit peu de son enfance à l'Arbrelle, justement, où il est très peu revenu ces dernières années.
C'est quelque chose dont il n'aime pas du tout parler.
Absolument pas. C'est un tabou.
À 17 ans, il est victime d'un accident.
Il est passionné de ski. D'ailleurs, il est moniteur de ski, moniteur de voile à l'occasion pendant les vacances. Il a un accident de ski. Cet accident le cloue au lit pendant des mois et ça mettra un terme à ses ambitions peut-être de devenir handballeur professionnel.
Jean-Michel Aulas fait un BTS informatique et une licence de sciences économiques en 1968. Il a 19 ans et il est dans le bureau d'un juge avec son père.
Pour se faire émanciper, à l'époque la majorité est à 21 ans, il veut créer une entreprise déjà dans le secteur de la comptabilité. Il obtient la majorité avec un peu d'avance.
15 ans après, en 1983, Jean-Michel Aulas lance une deuxième entreprise.
La Cégide, la success story de sa carrière, une entreprise qui comptera jusqu'à 2200 salariés et qui fera sa réputation et sa fortune. Une entreprise qui fait des logiciels de comptabilité, ce qui était très novateur au lancement.
Au milieu des années 80, il fait une rencontre décisive.
Oui, Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille, qu'il côtoie dans le cadre de ses affaires.
Et ensemble, ils vont parler de football.
Jean-Michel Aulas envisage de sponsoriser le club de Lyon qui est tombé en deuxième division et qui végète. Bernard Tapie, il sent que ça le démange, Jean-Michel Aulas, qu'il aime le foot, qu'il a de la personnalité, de l'ambition, et que finalement ça serait un bon président de club pour Lyon. Il va l'encourager, le pousser et même faire sa promotion dans la presse locale, ce qui fait que de futur sponsor, Jean-Michel Aulas va devenir président de l'Olympique Lyonnais.
Cet homme est ambitieux. Il a 38 ans, il s'appelle Jean-Michel Aulas et vient de succéder à la tête de l'Olympique Lyonnais à Charles Miguirian.
Il devient président officiellement le 15 juin 1987. Quelle est la situation de l'OL à ce moment-là ?
L'OL est en deuxième division depuis 4 ans, assez mal en point et loin de ses ambitions. Il y a certains de ses interlocuteurs qui raconteront que déjà, il se projetait en Coupe d'Europe. Il a toujours été assez visionnaire quelques années après. Il parle très tôt d'avoir une chaîne de télé au nom du club, quelque chose qu'il fera, il sera le premier. Il a des idées un peu en avance, c'est un entrepreneur.
À ce moment-là, que fait Jean-Michel Aulas pour essayer de relancer ce club de deuxième division ?
Il commence par mobiliser la mairie, demande des subventions, il mobilise aussi les entrepreneurs locaux pour augmenter le budget du club.
Le projet Aulas pour l'OL est très ambitieux. Son plan sportif démarrera l'an prochain en deuxième division avec un budget record, 38 millions de francs.
De qui est-ce qu'il s'entoure ?
Il s'entoure de deux personnes très importantes, deux anciens joueurs du club, Raymond Domenech qui va devenir l'entraîneur, qui deviendra plus tard sélectionneur des Bleus, et Bernard Lacombe qui a fini sa carrière d'attaquant à Bordeaux et qui le fait revenir. Raymond Domenech entraîneur, Bernard Lacombe entraîneur adjoint, c'est un trio qui va fonctionner très bien.
À la fin de la saison 1988-1989, Lyon décroche le titre de champion de France de deuxième division.
C'est un grand événement, c'est le retour de Lyon au premier plan. Le stade de Gerland est plein à craquer. Il y a plus de 20 000 drapeaux « Adieu D2 » dans les tribunes, c'est un slogan qui restera. Ils font un match nul 0-0 contre Alès et enfin, ils retrouvent la première division.
Pendant la décennie 1990, l'OL arrive à se maintenir en première division et en 1999, Jean-Michel Aulas signe un transfert important.
Les supporters de l'Olympique Lyonnais en rêvaient, Sonny l'a fait. Le buteur brésilien Sonny Anderson vient en effet de signer le plus gros transfert jamais réalisé dans l'histoire du football français. 116 millions de francs pour l'arrivée de l'ancien joueur de Barcelone, Monaco et Marseille.
Il coûte plus de 100 millions de francs, ce qui est une fortune à l'époque et ce qui surtout rentre pas dans le cadre des investissements très locaux. Et donc Jean-Michel Aulas va devoir ouvrir le capital de l'Olympique Lyonnais.
Comment est-ce qu'il fait ?
Eh bien, il fait appel à un investisseur extérieur, Jérôme Sédoux, le patron du groupe Pathé, des cinémas Pathé producteurs, qui va entrer au capital de l'Olympique Lyonnais et financer ce transfert de Sonny Anderson qui fera entrer le club dans une nouvelle dimension.
Ça, à l'époque, pour le championnat de France, c'est un événement, l'arrivée de Sonny Anderson et ce gros transfert ?
Oui, c'est un des plus gros transferts de l'histoire du championnat. C'est un joueur qui vient d'un club prestigieux. Lyon frappe un grand coup.
Président ! Ah, c'est l'heure des embrasses. Vous n'avez jamais fait autant de bises de votre soirée, Président.
Oui, mais vous savez, c'est des moments très forts. Et...
Le 4 mai 2002, Jean-Michel Aulas est sur la pelouse du stade Gerland. Au milieu de ses joueurs, il les prend dans ses bras.
Lyon est sacré champion de France, et pas de n'importe quelle manière, puisqu'il bat lors de la dernière journée le Racing Club de Lens, qui était leader avant la rencontre. Et ce succès offre à Lyon son premier titre, le début d'une longue série.
Là, c'est vraiment la folie pour Jean-Michel Aulas, on le voit heureux sur ces images.
Oui, bien sûr, toute la ville aussi, il y a des gens qui vont défiler Place des Terreaux.
Ce titre, les Lyonnais l'attendaient depuis 51 ans. Des milliers de supporters de 7 à 77 ans submergent les grandes artères de la ville et laissent exploser leur joie.
Lyon devient un peu une ville de football, même si ce n'est pas vraiment dans son ADN.
Ça va être la fête.
Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un de superstitieux.
Chaque détail compte, il y a un rituel de jour de match, c'est-à-dire qu'il va chez le coiffeur chaque jour de match. Ensuite, il faut qu'on vienne le chercher à une heure précise, il rejoint les joueurs, il participe à la causerie. Il a des gris-gris dans les poches et il fait particulièrement attention aussi aux costumes qu'il porte ou aux personnes qui sont assises à côté de lui dans la tribune puisqu'il pense que certains de ses voisins le font gagner et d'autres le font perdre.
Et dans les années qui suivent, Lyon va tout gagner.
Lyon va être champion 7 fois de suite. Lyon va écraser le football français puisque 7 titres de suite, c'est un record qui n'a toujours pas été battu. Et Lyon va obtenir un budget qui va dépasser les 100 millions d'euros, ce qui fait un fossé qui fait enrager la concurrence.
Il est très bon notamment sur les transferts.
Lyon se fait une spécialité d'acheter les meilleurs joueurs du championnat pour quelques millions d'euros avant de les revendre à prix d'or aux clubs étrangers.
Vous avez un exemple ?
Le plus emblématique, c'est celui de Michael Essien. L'Olympique Lyonnais l'a acheté à Bastia pour une dizaine de millions d'euros et Chelsea va venir frapper à la porte. Jean-Michel Aulas va se retrouver à Saint-Tropez sur le yacht de Roman Abramovich, président russe de Chelsea, et ils vont faire affaire pour 38 millions d'euros.
Donc, trois fois plus que ce qu'il avait acheté.
Oui, exactement, une belle plus-value.
En février 2007, Jean-Michel Aulas fait entrer son club, l'Olympique Lyonnais, en bourse.
L'idée, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans certains pays étrangers, d'associer les supporters, de valoriser le club, d'attirer des investisseurs aussi, de continuer une politique de développement économique.
En 2007 et 2008, l'OL gagne carrément deux titres de champion de France.
L'Olympique Lyonnais féminin remporte aussi le titre cette année-là et chaque année d'ailleurs jusqu'en 2020. C'est un des autres grands projets de Jean-Michel Aulas qui sera peut-être le principal promoteur du football féminin en France.
En 2009, l'année de ses 60 ans, Jean-Michel Aulas n'a plus envie de faire la fête.
Pour la première fois depuis 2002, son équipe masculine n'est pas championne de France et c'est le début de plusieurs années difficiles où le club va moins bien recruter, avoir un effectif vieillissant, des problèmes avec ses entraîneurs, une sorte de déclin pour l'Olympique Lyonnais.
Le 9 janvier 2016 est une journée particulière pour Jean-Michel Aulas.
C'est l'inauguration du Stade des Lumières, comme on l'appelle à l'époque, qui deviendra le Groupama Stadium quand il obtiendra un naming. C'est un des plus beaux jours de la vie professionnelle de Jean-Michel Aulas, puisque ce stade, il l'a voulu, il l'a rêvé, c'est son bébé. Il a passé des journées sur le chantier. C'est l'œuvre d'une vie, si on peut dire.
Ça donne des frissons, Grégoire, ce Aou. On vit ici le premier au Stade des Lumières.
C'est un soulagement aussi pour lui ?
Oui, puisque l'accouchement a été très difficile. L'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas voulaient un stade depuis 2007 et il y a eu des énormes oppositions locales, des gens qui se sont installés sur le terrain, des manifestations lors de visites de chantier à la presse. Voilà, ça a été un enfer.
C'est donc un accomplissement pour Jean-Michel Aulas. Malgré ça, il va avoir beaucoup de difficultés économiques dans les années qui suivent.
Il faut rembourser ce stade. L'Olympique Lyonnais a contracté un énorme emprunt. Et comme la plupart des clubs européens, les premières années sont difficiles. Et ça rend d'autant plus important les succès sportifs qui doivent renflouer les caisses.
On en vient au dernier développement, cette fin de saison tout à fait particulière, saison 2019-2020. Après le discours du 12 mars d'Emmanuel Macron, le sport français est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus. Jean-Michel Aulas, à ce moment-là, il veut à tout prix que le championnat reprenne ?
Oui, il veut que le championnat reprenne ou, dans le pire des cas, que son équipe soit qualifiée en Coupe d'Europe. L'OL est septième, c'est-à-dire qualifié pour aucune Coupe d'Europe. Et Jean-Michel Aulas va donner des interviews pour demander, en cas d'arrêt du championnat, qu'une saison blanche soit appliquée, c'est-à-dire qu'on reprenne le classement de la saison d'après et qu'on qualifie l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.
Oui, parce qu'à partir de là, il va essayer de proposer tous les scénarios possibles pour que Lyon s'en sorte.
Il va tout imaginer, finir la saison jusqu'en décembre, faire des barrages qui impliqueraient presque toutes les équipes du championnat et qui pourraient totalement changer la situation, jouer en août. Voilà, tous les moyens sont bons pour finir la saison.
On a envie de pleurer parce que on fait le maximum, eh bien on arrive à délivrer une bonne qualité de jeu, et puis le mauvais sort s'acharne sur nous et personne n'en parle, parce que évidemment c'est toujours ceux qui s'expriment qui sont on va dire les mauvais élèves de la classe.
Pour lui, il y a aussi un énorme enjeu économique.
Oui, puisque l'abandon des droits télé fait perdre plusieurs dizaines de millions d'euros à tous les clubs, et la qualification en Ligue des Champions rapporte environ 40 millions, une somme sur laquelle compte l'Olympique Lyonnais quand il confectionne son budget.
On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire.
Jean-Michel Aulas est très présent dans les médias, également sur Twitter. Ça agace par moments ?
Oui, depuis des années, il s'est fait une spécialité d'interpeller les gens directement. Dans une émission de radio, si quelque chose ne lui plaît pas, il va appeler les journalistes et intervenir à l'antenne. Twitter, ça lui permet de le faire, mais il ne s'adresse pas seulement aux dirigeants des autres clubs. Il va aussi interpeller des journalistes, mais aussi des supporters qui parfois ont deux ou trois followers, ce qui fait que sa communication est souvent jugée illisible, y compris par son entourage.
Tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants.
Le 28 avril, Édouard Philippe présente son plan de déconfinement à l'Assemblée.
La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre.
Le jeudi 30 avril, la Ligue de football professionnel, la LFP, acte la fin du championnat. Que se passe-t-il pour Lyon ?
Lyon est septième, s'est entériné, puisque l'option retenue est celle de s'arrêter à la 28e journée de championnat que Lyon a disputée, mais pas tous les clubs, donc on applique un prorata, c'est un peu compliqué. Mais voilà, Lyon espérait qu'on s'arrête à la 27e journée que toutes les équipes avaient disputée, ce qui lui aurait permis d'accrocher la Ligue Europa.
C'est un coup dur pour Jean-Michel Aulas ?
Ah, c'est un coup dur énorme, c'est l'application du règlement qui est faite pour les autres divisions, mais lui, il y voit un complot, puisque d'autres dirigeants, comme l'a dévoilé Dominique Sévérac dans Le Parisien, d'autres dirigeants ont discuté de cette possibilité sur des groupes WhatsApp dont il est exclu. Il a l'impression qu'on s'est arrangé dans son dos, en fait, pour lui faire payer, justement, de trop parler depuis des années et son influence.
Il va se battre sur tous les terrains ?
Il se bat toujours, il va écrire aux parlementaires, il va donner une interview ou plusieurs interviews par jour et il va faire aussi des recours juridiques.
Qu'est-ce qu'il va faire concrètement comme recours juridique ?
Il va déposer deux recours devant le tribunal administratif contre l'arrêt du championnat et contre le calcul du classement. Le tribunal administratif va se déclarer incompétent et l'affaire va se poursuivre devant le Conseil d'État.
Avant même la décision du Conseil d'État, c'est finalement le 30 avril et ce qu'a annoncé la Ligue de football professionnel, la LFP, qui fait de Jean-Michel Aulas le grand perdant de cette séquence. Est-ce qu'il a perdu de son influence dans le football français ?
Oui, en même temps que l'Olympique Lyonnais était dépassé par le PSG, lui, il a été dépassé par Nasser Al-Khelaïfi, plus puissant au niveau français comme au niveau européen. Et à cela s'ajoutent des inimitiés avec de nouveaux investisseurs qui font qu'on aime bien, de temps en temps, faire un sale coup à Jean-Michel Aulas.
Jean-Michel Aulas a 71 ans. Est-ce qu'il prépare sa retraite ?
Oui, il dit désormais qu'il pourrait partir aux environs de ses 75 ans. Alors on a parfois l'impression qu'il repousse un petit peu plus à chaque fois, mais il y a des choses concrètes qui se mettent en place. Il travaille notamment beaucoup avec Tony Parker, le patron de l'ASVEL, le club de basket de Lyon, avec qui il a mis de longue date, et il voit en lui un éventuel successeur.
Merci à Yves Leroy. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast. Vous pouvez bien sûr nous mettre des petites étoiles, notamment sur Apple Podcast et Podcast Addict, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Myrène Garay-Coetchea, production Stéphane Genest et Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.